Bonjour et bienvenue sur Radio Picasso. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Très bien, alors je me présente, je suis Genia Brali, élève en TSN.
D'accord.
Bonjour, moi je suis Alain Kedif, élève en ASN.
Bonjour, je suis Lorenzo Andrinavalna, je suis en classe de terminale mécanique carrosserie ou en TMC.
D'accord. Vous avez tous les trois participé avec vos classes à un projet assez considérable dans le cadre du dispositif Eureka. L'intitulé du projet était « Discrimination, racisme et antisémitisme, devoir de mémoire, connaître et voir pour ne pas oublier ». Le projet était assez conséquent car il s'est déroulé sur toute l'année. Les élèves de TMC, donc la classe de Lorenzo, ont étudié en début d'année le livre d'Anina Tchouchou « Je suis tzigane et je le reste » et le film « Liberté » de Tony Gatliff. Puis ils ont fait un atelier d'écriture avec Michel Lautru qui a abouti à la réalisation d'un recueil de poésie assez exceptionnel « Paix et partage ». Les Insen, la classe d'Alan, et les TMC, vous avez aussi assisté à une intervention de la LICRA et à un témoignage de Claude Bloch, ancien déporté. Les Terminal Sen, la classe de Genia, et les Premières MIC ont ensuite eu la chance de rencontrer deux membres de l'association Ibuka pour échanger avec eux autour du génocide rwandais. Le 29 mars, toutes les classes participant au projet se sont rendues au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation pour un travail à partir de documents d'archives et l'après-midi, une visite au mémorial de la prison de Montluc. L'ensemble des classes se sont pour finir rendues trois jours en Alsace, à Nutzweiler, pour visiter le camp de concentration du Strudhof. Est-ce que chacun à votre tour, vous pouvez me dire quelques mots des actions auxquelles vous avez participé ? Alors je vais commencer par toi, Lorenzo. Est-ce que tu peux nous parler de votre travail en atelier d'écriture avec Michel Lautru ?
Oui, donc on a effectué un travail d'écriture avec Michel Lautru. C'était un poète. Il est venu dans notre classe pour pouvoir écrire.
Pour vous faire écrire, du coup. Oh, comment ça s'est passé avec des carrossiers et des mécaniciens, l'écriture ? Vous êtes arrivé à quoi, alors ?
Bah, à la base, bah, on pensait que c'était pas trop dans notre domaine, mais à force, enfin, avec le temps, ça, on a quand même réussi à faire des bonnes choses.
Est-ce que vous avez été surpris, du coup, à l'arrivée ?
Oui, ouais, surpris, oui, parce que quand nous-mêmes, on savait même pas qu'on était capable de telles choses, on a quand même écrit des belles choses. Et je sais pas, je pense qu'on est quand même fiers de nous d'avoir été capable de faire ça.
Alors on écoutera tout à l'heure dans le programme justement la lecture de quelques-uns de ces poèmes. Alan, quant à toi, tu as réalisé les interviews d'Annette Bloch et de Claude Bloch. Qu'est-ce qui a été le plus marquant lors de ces rencontres ?
Le plus marquant, avec Claude déjà, c'est le fait, son histoire en fait, elle est marquante parce qu'il la connaît par cœur. Enfin, pour lui, toute sa vie a été choquante, il a retenu chaque date, chaque jour de sa vie, il est capable de nous le redonner... À chaque fois, en fait, sans, comme ça, sans rien. Pour lui, c'est tout est marquant. On lui demande une date, il sait ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai trouvé ça impressionnant parce que moi, on me demande ce que j'ai fait il y a 3 mois, je m'en souviens pas. Après, avec la représentante de la ICRA, ce qui m'a aussi impressionné, c'est qu'elle a dit que sa famille, en fait, avait vécu ça, qu'elle avait pas de haine et que pour elle, c'était logique qu'elle fasse partie de cette association, donc j'ai trouvé ça assez respectable de sa part. Et intéressant, parce que tout le monde ne fait pas ça, et voilà.
Il ne tient pas ce genre de discours.
Ouais, voilà. Ouais.
Genia, tu as eu la chance de rencontrer Valence et Jeanne de l'association Ibuka pour parler du génocide rwandais, ça aussi, ça a dû être un peu particulier. Quel souvenir tu gardes de ce moment ?
Eh bien, déjà que j'en avais un petit peu entendu parler, mais sans plus en fait. Hein. Je connaissais pas beaucoup les détails. Et en fait, ce qui m'a bien beaucoup marqué, c'est que c'était un génocide à la machette. Donc en fait, là-bas, la machette, c'est quelque chose que tout le monde a en fait. C'est quelque chose de classique. Et aussi, ils m'avaient raconté que des fois, c'était leurs voisins qui venaient les tuer. Et là, il y avait Jeanne qui m'avait dit qu'elle pourrait pas leur pardonner. Parce qu'ils vivent à côté de chez elle et elle pourrait pas leur pardonner d'avoir massacré leur famille pour ça.
D'accord, ouais, donc c'était des moments un peu, ouais, du coup, vous avez vécu tous des moments un peu particuliers là. Est-ce que vous pouvez dire une petite phrase sur votre séjour en Alsace, du coup, sur le Strudhof, on écoutera tout à l'heure, simplement un ressenti global, un souvenir que vous gardez de ce lieu. Alan ?
Moi, j'ai trouvé ça marquant, parce qu'en fait, c'était... Enfin, le lieu en soi, et on voit qu'il s'est passé quelque chose, enfin, on sent quelque chose, parce que c'est censé être un lieu beau. Enfin, je veux dire, le paysage était magnifique là-bas. Et quand on sait ce qu'il y a à l'intérieur, ça change complètement la vision du lieu, en fait. C'est pour moi, c'était marquant au niveau de ça.
Toi, Génia ?
Eh bien, ce que je trouvais vraiment marquant, bah, c'était comme l'a bien dit Alan, hein, c'est que le paysage est vraiment splendide, mais ce qui s'est passé l'est bien moins. Mais aussi, c'est qu'il y avait pas mal de personnes d'origine différente qui venaient pour visiter ou pour se recueillir, des fois.
D'accord. Lorenzo, qu'est-ce qui te restera en mémoire du Strudhof, tu penses, dans quelques temps, dans quelques années ? Quelle image tu garderas, toi ?
J'ai pas vraiment une image, mais on ressent la pression une fois sur le lieu. On ressent à peu près ce qu'ils ont vécu, on ressent ce climat triste. C'est assez pesant.
Bien, merci à tous les trois. On va voir, du coup, on va écouter pendant une heure un petit peu tout ce que vous avez fait. Vu qu'on vous propose maintenant d'écouter donc un programme qui reprend les nombreuses étapes du projet à travers les différentes émissions de radio que vous avez réalisées. Donc, tout d'abord, l'interview d'Annette Bloch de la LICRA, puis celle de Claude Bloch, ancien déporté. Ensuite, nous écouterons votre reportage au Strudhof. Et tout le programme sera entrecoupé des lectures de poèmes écrits justement par la classe de TMC.
J'ai toujours rêvé d'être chasseur des méchants. J'ai toujours rêvé d'être endormeur de fusils. J'ai toujours rêvé d'être soigneur des mauvaises pensées. J'ai toujours rêvé d'être enfermeur des poings serrés. J'ai toujours rêvé d'un autre monde.
Ce sont mes mots qui apaisent les nuages. Ce sont mes actes qui les mettent en pleurs. Ce sont mes blagues qui font rire les nuages. Ce sont nos barbaries qui les rendent brumeux. Ce sont nos nuages et nous devons les protéger.
J'ai vu un mur sur moi, un mur autour de moi, un mur qui me colle à la peau, car on ne m'accepte pas tel que je suis. Comment faire pour intégrer l'humain ? Ce mur me semble infranchissable. Je devrais y mettre une porte pour vous, pour que vous y entriez et me retrouver à égalité. Ce mur, c'est ma peau.
Tu m'as promis la tendresse de l'avenir. Tu me l'as murmuré dans un horizon de confiance, pour effacer mes pensées fauves qui vident mes espoirs vaincus, pour me conduire à mes rêves oublieux de môme. Je te l'ai dit pour la faiblesse du juste, je te l'ai dit pour l'océan charmé, déserté d'avenir, et la lueur d'Orient devenue silence vierge. Toute pensée, chaque espoir d'avenir ne sont qu'un maillon candide.
Au-delà des mers, je voudrais avoir pour ami le citron ou l'orange pour manger ensemble. Au-delà des mers, je voudrais avoir pour ami la barque ou la rame pour voyager ensemble. Au-delà des mers, je voudrais avoir pour ami toi, oui toi, si différent mais si proche, toi au-delà des mers.
Marron, noir, rouge, jaune. L'arc-en-ciel des peaux fait de nous des égaux. Alors, toi le marron d'Afrique, toi aussi le noir africain, ou encore toi le rouge indien, et enfin toi le jaune d'Asie, qui subissait tant de haine. Unissez-vous autour du blanc pour oublier les violences d'antan.
Le bonheur était écrit à l'encre bleue de l'océan exaltant. Le bonheur était écrit à l'encre bleue d'une goutte, d'une larme émotion,
d'une paupière sucrée, d'une larme salée. Je t'ai promis tout le sable du désert réuni sur mon île inexplorée. Hélas, le monde est une caresse affaiblie par les vents des tropiques et les vagues nous arrivent comme un défilé d'histoire d'un château ensablé.
Le monde est une caresse sur ma peau. Le monde est une caresse, et ta peau est la mienne. Le monde est une caresse, mais ta peau, mais la mienne. Différente, mais ta peau, mais la mienne. Belle.
Nous chanterons le temps des cerises, les guirs aux signoles, les merles au cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes vermeilles, tombant sous la mousse en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises, et le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde au cœur.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Picasso. Aujourd'hui, nous recevons Claude Bloch. Pouvez-vous vous présenter ?
Voilà, je m'appelle Claude Bloch, je suis né le 1er novembre 1928 à Lyon. Donc aujourd'hui, j'ai 87 ans. J'avais à l'époque à Lyon, évidemment, mes parents, mes grands-parents maternels. Mon père est décédé en 1938. À Tours habitait sa sœur, ma tante, donc, et son mari. Et ma grand-mère paternelle, qui est décédée en 1939, j'ai pas connu mon grand-père paternel.
Quel âge avez-vous ?
J'ai 87 ans.
Dans les années 40, quelle était la situation en France ?
Ben, la situation en France, tout de suite, à la déclaration de guerre, on se rendait compte de rien, puisqu'on va l'appeler la drôle de guerre, il se passait rien sur le front, jusqu'au 10 mai 40, où les Allemands ont lancé une grande offensive, ont très vite envahi la France, et donc Voilà. En juin, le 22 juin, le maréchal Pétain, qui avait été nommé chef du gouvernement, a signé l'armistice.
Quel âge avez-vous à l'époque ?
À l'époque, j'avais 12 ans.
Y avait-il des signes de collaboration ?
Au tout début, on a très bien accueilli les Allemands. Ils étaient très corrects. Ils défilaient à Lyon, entre autres, avant de se replier dans la zone occupée, la zone au nord de la Loire.
À l'époque, vous étiez à l'école. Que faisiez-vous ?
À l'époque, à 12 ans, j'étais effectivement à l'école. C'était en 40. J'ai passé mon certificat d'études à ce moment-là. Ensuite, je suis venu à Lyon. J'ai été par la suite à l'école de la Martinière.
Nous allons parler de votre arrestation. Comment s'est passée votre arrestation ?
Alors, mon arrestation s'est passée le 29 juin 1944. Nous étions réfugiés, entre guillemets, à Crépieux, dans la banlieue lyonnaise. Mes grands-parents, ma mère et moi. Donc, vers midi moins le quart, ce 29 juin, c'était un jeudi, j'étais en vacances scolaires depuis quelques jours, ma mère était en congé maladie, mon grand-père ne quittait jamais la maison, et ma grand-mère, le matin, était partie à Lyon pour faire des courses, elle avait rendez-vous chez le dentiste. Donc, à midi moins le quart, deux hommes se sont présentés, ils sont montés tous les deux, ils nous ont dit de préparer une valise. Et il nous a emmenés au siège de la Gestapo, qui à l'époque s'était installé place Bellecour, à l'angle de ce qui est aujourd'hui la rue Saint-Exupéry.
Saviez-vous pourquoi ils vous ont arrêté ?
Ils nous ont arrêtés parce qu'on était juifs.
Qui a procédé à cette arrestation ?
Entre autres, j'ai reconnu l'un des deux, bien après-guerre sur photo, qui était Paul Touvier, le chef de la milice à Lyon.
Et c'était à la demande de qui ?
Je ne sais pas, la Gestapo, les miliciens, tout le monde faisait, entre guillemets, la chasse aux Juifs.
Moi, je voudrais juste vous demander si vous pouviez nous expliquer qu'est-ce que c'est la Gestapo.
La Gestapo, c'était la police secrète allemande qui était chargée, comme ça, des arrestations, aussi bien en Allemagne que dans les pays occupés, qui interrogeaient les gens très rudement.
Lors de votre arrestation, savez-vous ce qui vous attendait ?
Moi, personnellement, non. Je pense que mon grand-père et ma mère devaient être au courant.
Donc vous avez été envoyé dans un camp ?
Tout de suite, ça a été plus compliqué que ça. Au départ, ils nous ont emmenés à la Gestapo, place Bellecour. Nous étions dans la cave avec d'autres personnes, ils nous avaient fait asseoir. Au bout d'un moment, un homme est venu chercher mon grand-père et ma mère pour interrogatoire. Et ma mère est revenue dans la cave toute seule, en glissant à l'oreille, ils ont tué ton grand-père.
Comment avez-vous pris cette...
Quand on a 15 ans, j'avais 15 ans et demi à l'époque, évidemment d'apprendre tout à coup que son grand-père, qu'on a vu partir pour un interrogatoire, revient alors que j'ai entendu son nom à la porte derrière nous, je me suis retourné, son corps était sur les épaules d'un homme. Après, j'ignore ce qu'ils en ont fait.
Donc après cela, vous avez été déporté
Alors après ça, on a été amené à la prison Montluc à Lyon, où j'ai passé trois semaines. Et ensuite, on a été à Drancy, un camp de regroupement dans la région parisienne. Et le 31 juillet 44, on partait pour une destination inconnue qui va s'avérer être Auschwitz.
Comment s'est passée cette déportation
Cette déportation, ils nous ont amenés en gare de Bobigny, dans la région parisienne. Nous sommes montés dans un train de wagons à bestiaux, ces wagons en bois. Ils nous ont fait monter environ 80 à 100 par wagon, alors que c'est prévu pour 40 personnes, sans nourriture, sans eau. Et on a voyagé comme ça, 31 juillet, 1er 2, et on est arrivé à peu près le 3 août à Birkenau, qu'on appelle aussi Auschwitz 2.
Lors de votre arrivée au camp, y a-t-il des sélections ? Comment se sont-elles passées ?
Voilà, alors en arrivant au camp, les femmes et enfants d'un côté, les hommes de l'autre, on est descendu des wagons, une file d'hommes, une file de femmes et enfants. En ce qui concerne les hommes, un SS nous regardait arriver, nous faisait signe à droite, à gauche, à gauche, à droite. On savait pas pourquoi c'était, on a su après que une des colonnes dont je faisais partie avait été sélectionnée pour étant jugé apte au travail, l'autre colonne inapte au travail. Je faisais 45 kilos. J'ai été jugé apte au travail. Des hommes d'un fort de l'âge ont été jugés inaptes. Du côté des femmes, c'était pareil. Et il faut savoir que toute femme qui arrivait avec un enfant à côté d'elle était automatiquement jugée inapte au travail.
Merci, nous allons faire une courte pause. Donc nous allons écouter Édith Piaf, Sous le ciel de Paris.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Nous sommes de retour sur Radio Picasso avec Monsieur Claude Bloch et Alan. Donc, vous nous avez raconté l'arrivée au camp. Quelles étaient les conditions de vie au camp?
D'abord, il faut que je vous dise que quand on est arrivé dans ce train, on était 1000 adultes et 300 enfants. Parmi les adultes, il y en a eu un peu plus de 700 et les 300 enfants qui ont été gazés dès l'arrivée. Et nous, notre colonne, comme on avait été sélectionné, on a fait 3 kilomètres à pied pour arriver au camp principal d'Auschwitz, qui est une ancienne caserne de l'armée polonaise, c'est-à-dire composée de bâtiments en briques et non pas de baraques en bois comme tous les camps. On est entré dans un de ces bâtiments, on s'est entièrement déshabillé, ils nous ont tendu des pieds à la tête, tatoué un numéro sur le bras, le mien c'est le B3692, donné un vêtement, une veste, un pantalon, une paire de souliers sans chaussettes, et nous avons été mis dans un de ces bâtiments.
Quelles étaient les conditions de vie là-bas?
Eh ben, les conditions de vie étaient relativement simples, sinon très très rudes. On se couchait, par exemple, dans le dortoir, c'était des chalits, c'est-à-dire des lits superposés en bois, prévus pour une personne, ils nous ont mis deux. Le matin, on était réveillé à 4 heures, quand on est arrivé au mois d'août, le jour se lève de bonne heure dans l'Est. Là, à ce moment-là, on descendait et on se mettait au garde-à-vous bien aligné en bas, au rez-de-chaussée, pour attendre l'appel, c'est-à-dire SS qui venait nous compter. S'il y avait eu un mort pendant la nuit, mort pendant son sommeil, il fallait qu'on descende pour l'étaler devant nous, pour qu'il fasse partie de l'effectif de la veille au soir. Ensuite, on nous distribuait le café, entre guillemets, une cuvette pour six, on buvait ça et on partait au travail. J'avais été affecté à un commando de terrassement qui travaillait donc à l'extérieur du camp.
Avec les personnes qui étaient au camp là-bas avec vous, est-ce qu'il y avait des discussions qui revenaient, des discussions qui vous ont marqué, des choses ?
Des discussions qui m'ont marqué entre nous, non. D'abord, on était entre Français, on se regroupait, parce qu'il y avait toutes les nationalités possibles et imaginables d'Europe. Donc, on se comprenait pas entre nous, à part justement les Français et quelques Belges, s'il y en avait, qui parlaient français. Sinon, on évitait de se fréquenter les uns les autres, parce que sinon, il y avait des malentendus, des bagarres. Quand on se comprend pas, il y a forcément des incidents.
Y a-t-il eu des moments qui vous ont marqué là-bas ?
Oh, spécialement, tout pouvait, c'est bien le cas de le dire, nous marquer. On partait travailler donc au pas, à un orchestre composé de déportés, de jouer des airs entraînants à la sortie du camp. On partait travailler, on faisait du terrassement toute la journée. À midi, il y avait une pause, ils nous servaient un bouillon, une cuvette pour quatre. On reprenait le travail tout l'après-midi, le soir on rentrait au camp. En ramenant, en le portant, s'il y en avait eu, heureusement c'est pas tous les jours, les morts qui étaient morts par épuisement, qui tombaient pendant le travail. Le soir, il y avait l'appel quand on arrivait de nouveau, et là c'était plus long le soir puisqu'il n'y avait plus rien à faire, donc la journée était finie, le SS venait quand il en avait envie, ça pouvait durer une demi-heure, deux heures, trois heures, on attendait au garde à vous, qui nous compte. Et là encore deux possibilités, il trouvait le même nombre que le matin où il prétendait qu'il manquait quelqu'un. Alors il nous faisait encore attendre pour revenir, il avait naturellement trouvé son erreur puisqu'en réalité il n'y en avait pas. À ce moment-là, on nous distribuait la seule nourriture solide de la journée, un cube de pain noir sur lequel était posée une rondelle tantôt blanche tantôt noire qu'on pensait être de la margarine ou du boudin. Et on mangeait ça, on remontait se coucher. Et c'était tous les jours pareil, sauf le dimanche. Le dimanche, la même chose, l'appel, le café, mais on partait pas travailler. Alors on se promenait dans le camp toute la journée, avec interdiction d'entrer dans un bâtiment, quelle que soit la météo.
Là-bas, avez-vous fait des rencontres qui vous ont marqué, des rencontres que vous servirez toujours ou...
Oh, c'était tous les jours la même chose, alors rien pouvait tellement nous marquer, sauf des sélections qui avaient lieu aussi de temps à autre, comme à l'arrivée du train. Certains d'entre nous étaient sélectionnés, renvoyés à Birkenau pour être gazés, surtout quand ils avaient besoin de faire de la place parce qu'un train arrivait.
Donc moi, je voudrais vous poser une question. Quand est-ce que vous avez compris pour les chambres à gaz ?
Oh, bon, on l'a su très vite. Quand on est arrivé dans le camp à 3 km donc de Birkenau, où étaient les chambres à gaz, certains d'entre nous ont pu demander aux anciens qui étaient là dans le camp depuis longtemps. Je suis arrivé avec mon père, avec mon frère, et je les vois pas. Est-ce que tu sais où ils peuvent être ? Alors, l'ancien qui était dans le camp depuis longtemps, lui, il faisait voir, c'était à 3 km, mais on la voyait, il disait, tu vois la fumée là-bas. Eh ben, ton père, ton frère, ils sont sortis du camp. C'était comme ça que les gens qui avaient avec eux un père, un frère, savaient ce qu'il était devenu.
Combien de temps avez-vous passé dans ces camps ?
Alors, à Auschwitz, j'ai passé août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois. Après, j'ai été transféré dans un autre camp.
Dans quel camp ?
Au camp de Stutthof, en Pologne. Ne pas confondre avec Stutthof en Alsace. Stutthof en Pologne, qui est une trentaine de kilomètres de Danzig, Gdansk en polonais.
Et c'était un camp d'exportation, d'extermination ?
C'était un camp d'extermination aussi. Mais il faut dire qu'au mois de novembre 44, et on l'a su parce que les nouvelles arrivaient assez vite dans le camp sans qu'on sache comment elles arrivaient, qu'un ordre est arrivé de Berlin, j'ai su après-guerre que c'était en novembre, mais qu'un ordre est arrivé de Berlin d'arrêter toutes les chambres à gaz dans les camps d'extermination, tous situés en Pologne, et de les détruire au fur et à mesure que l'armée soviétique approcherait pour libérer le camp.
Et comment s'est passée cette libération, la fin de ce cauchemar?
Ben d'abord, j'étais donc à Stutthof, où j'ai travaillé un quelque temps dans une usine. Après, bon, je suis resté au camp parce que j'avais un pied qui commençait à geler, surtout le gros orteil du pied gauche. La discipline était un peu relâchée parce que les SS avaient été envoyés sur le front de l'Est et remplacés par des soldats de l'armée régulière, la Wehrmacht. Donc ils nous laissaient tranquilles parce que je l'aurais pas fait au chute. C'est par l'infirmerie qui commençait à faire les sélections. Donc là, je suis resté quelque temps sans aller travailler. Et quand les SS sont revenus, je suis retourné travailler. Et vers la fin avril, début mai, ils nous ont emmenés en péniche. Et on est arrivé dans un rade d'un port. Ils nous ont fait monter sur des cargos. Et là, on a su par la suite qu'on était à Flensburg, en Allemagne du Nord. Et quelques jours après, 2-3 jours après qu'on a été sur ce cargo, les SS, entre-temps, avaient disparu. On a vu, un matin, 2 jours peut-être après qu'on est arrivé, des bateaux amarrés à notre cargo, qui battaient pavillon de la Croix-Rouge. Il s'est avéré qu'on était le 10 mai 45, 2 jours après la capitulation sans condition de l'Allemagne, et que la Croix-Rouge suédoise venait nous chercher.
Dans quel état étiez-vous?
Alors, on a débarqué à Malmö, là, ils nous ont fait quitter nos vêtements, on était couverts de poux, de vermine, de tout ce qu'on veut, passer dans des études, donner des vêtements propres, sélectionner à nouveau, les plus faibles les emmener en ambulance, et les moins faibles dans un train qui était là. J'ai été désigné dans les moins faibles, j'ai été incapable de monter dans le train. C'est un infirmier qui m'a posé sous les aisselles, qui m'a mis dans un compartiment. On a roulé comme ça dans la campagne suédoise. On est arrivé dans un bâtiment qui était une école qu'ils avaient transformée en hôpital. Ils nous ont pesé. Je faisais 30 kilos. 10 mois avant, au moment de mon arrestation, j'en faisais 45. J'avais perdu un tiers de mon poids et on m'a expliqué après que si je suis pas monté dans le train, c'est que j'avais plus de muscles et j'étais incapable de monter dans le train. Et au bout d'une dizaine de jours de soins, le médecin qui parlait très bien le français m'a dit: aujourd'hui, je peux te dire que t'es sauvé, quand tu es arrivé, je te donnais pas 24 heures. J'ai passé comme ça 2 mois en Suède, et le 14 juillet 45, on a embarqué sur un paquebot qui nous a ramené à Cherbourg. On est arrivé le 20 juillet, et le 22 juillet, j'étais de retour à Lyon.
Comment s'est passé votre retour en France? Comment les Français vous ont-ils accueilli?
Les Français, on a cherché à parler de ce qu'on avait vécu. Personne voulait nous écouter. Bon, vous êtes là, vous avez souffert, mais enfin, vous êtes là. Le ravitaillement, vous allez voir, c'est autre chose.
Comment s'est passé votre vie après?
J'ai essayé d'avoir une vie normale. J'avais plus que ma grand-mère, qui était déjà très, très malade. Elle va décéder en septembre 1949, le 5 septembre. 2 mois après, j'avais 21 ans. Donc j'étais tout seul, je me suis retrouvé tout seul. En septembre 50, je me suis marié et j'ai eu trois fils.
Donc aujourd'hui, vous venez dans les écoles. Depuis combien de temps faites-vous ça?
Je fais ça depuis environ l'année 95 à peu près, puisque j'ai pris ma retraite en 89.
Pour vous, c'est important de faire de la prévention?
Pour moi, c'est indispensable, oui. Évidemment, je demande pas à aller le faire, c'est les collèges qui me demandent de venir, mais j'ai beaucoup de demandes. Et de temps à autre, j'accompagne des voyages à Auschwitz.
Vous êtes souvent accompagné de la LICRA?
Je suis adhérent de la LICRA.
Est-ce que vous aimez faire ce que vous faites, ou est-ce que pour vous c'est une obligation?
Non, c'est pas une obligation. J'aime le faire, j'estime que c'est très utile, et je constate qu'effectivement, je vais surtout dans les collèges, un peu moins dans les lycées, on me demande moins dans les lycées, mais les jeunes de 3e, donc c'est dans le programme des 3e, ils ont 14 ans, ils sont très attentifs et ça les marque beaucoup.
Vous faites ça de partout en France?
Je fais ça principalement dans la région lyonnaise. Bon, ça m'arrive quelquefois d'aller à Drancy, dont je fais partie d'une association, et quand ils ont besoin d'un témoin, qu'ils n'en ont pas d'autres disponibles, ils me demandent d'y aller.
Aujourd'hui, en France et en Europe, il y a des retours des idées nationalistes. Quelle est votre perception de cela?
Je suis assez inquiet parce que je me demande. Maintenant, ce sont des gens qui n'ont pas vécu la période On est très peu nombreux maintenant de cette période-là. J'ai, donc quand ça m'est arrivé en 44, j'avais 15 ans, j'en ai 87 aujourd'hui. Beaucoup de gens ont disparu de cette période. C'est pour ça que juste c'est utile d'aller informer les jeunes, parce que les gens se rendent plus compte maintenant, et malheureusement, on a vu les événements récents. D'abord, le racisme qui peut en découler. C'est pour ça que la LICRA est là aujourd'hui pour expliquer tout ça.
Donc, je souhaite vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé.
Mais je vous en prie.
Je remercie aussi Alan et Jérémy, Adrien aussi. Et est-ce que vous avez un mot à rajouter,
Non, cet après-midi, je vais témoigner devant des classes de première, je crois.
Oui.
Donc, je vais dire en beaucoup plus développé ce que j'ai vécu pendant cette période.
Eh bien, merci beaucoup. Donc, nous allons écouter un morceau de Léo Ferré, Avec le temps.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules, à la galerie je farfouille, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas, les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard et l'on se sent floué par les années perdues. Alors,
vraiment. Avec le temps, on n'aime plus.
J'ai toujours rêvé d'être le gardien des esprits pour rassurer les hommes, pour qu'ils surmontent leurs erreurs, pour vivre avec le passé. Ne pas oublier, se souvenir des disparus, ne pas oublier.
Préparer le couteau du bourreau, prendre deux ou trois morceaux d'ignorant, les couper pour mieux les diviser, mélanger dans une marmite d'indifférence, faire cuire dans l'impatience, rajouter quelques morceaux de haine, laisser mijoter cette gangrène, la dresser avec un arsenal pour obtenir une assiette de mort, finir par saupoudrer aux larmes des victimes éprouvées.
J'ai vu la terreur, elle avait l'air en joie. Elle repensait à ce 13 novembre. Je l'ai vue gambader autour d'un stade, puis faire la tournée des terrasses, avant d'aller se joindre au concert pour y rincer sa soif de vengeance. J'ai vu l'ignorance au bord d'une rivière. Elle s'est noyée en espérant traverser, échouée, personne n'était là pour s'en soucier.
Prenez deux ou trois morceaux d'ignorance. Mélangez-les dans une marmite d'indifférence. Rajoutez-y quelques pincées de haine et laissez mijoter les déchets. Préparez le couteau du bourreau. Faire cuire le tout dans l'impatience. Découpez pour mieux diviser. Vous obtiendrez une poignée de mort. Servir enfin aux larmes des victimes après les avoir dressées sur l'arsenal de la haine.
Je t'ai promis tout le sable du désert sans même en avoir compté les grains. Je t'ai promis tout le sable du désert sans même en savoir le nombre d'oasis. Je t'ai promis tout le sable du désert tout en sachant ma promesse vaine.
J'ai toujours rêvé d'être un dealer de bonheur pour offrir au monde des sachets de tendresse, pour offrir au monde joie, justice, solidarité. Un monde vrai.
La confiance a traversé les frontières. Les vagues nous arrivent comme un défilé d'hommes échoués sur la plage. Et leur bonheur était écrit à l'encre bleue, bleu comme la France, bleu comme la mer. La confiance a traversé les frontières, mais elle reste aux portes de l'esprit.
J'ai toujours rêvé d'être dealer de bonheur, pour offrir l'amour. Pour jeter la douleur, la haine et la mort, un autre que moi peut-être, un autre jour peut-être.
Bonjour, vous êtes sur Radio Picasso. Alors aujourd'hui on est avec une membre de l'association de la LICRA. Donc bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je suis Annette Bloch et je suis une bénévole de la LICRA.
Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est la LICRA ?
Alors, la LICRA, son sigle, ça veut dire Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. C'est une association qui est née LICA en 1927. Donc, elle est née pour lutter contre l'antisémitisme à l'occasion d'un fait d'antisémitisme. Et puis, les années 30 arrivant, la montée des ligues fascistes, de thèses racistes comme celle de Lapouge et Houston. Les membres de la LICA se sont dit « on va poursuivre notre combat contre l'antisémitisme, mais nous devons l'élargir à toutes les formes de racisme, à toutes les formes de rejet des hommes et des femmes pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font. »
Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer le mode de fonctionnement de la LICRA et quelles sont ses actions ?
Oui, le mode de fonctionnement, quelle est la question exactement ? C'est une association qui fonctionne essentiellement avec des bénévoles, qui pour le moment a peu de salariés, et ça lui pose un problème. Il faudrait qu'elle puisse en avoir plus. Mais donc ce sont principalement des bénévoles, des gens qui s'engagent, qui considèrent que parmi les choses les plus importantes à faire pour eux, dans le temps dont ils disposent, peu ou beaucoup, il faut lutter contre le rejet des autres, contre la haine, et contre tout ce qui peut faire conflit entre les êtres humains.
D'où vient votre engagement à la LICRA ?
Alors, c'est pas toujours facile de savoir réellement d'où ça vient. Quand j'ai arrêté d'avoir un travail salarié, quand j'ai pris ma retraite, il y avait deux thèmes qui me tenaient à cœur. C'est la question de la faim, parce que je trouvais insupportable que au 20e ou 21e siècle, on ait encore faim, et la question du racisme et de l'antisémitisme. J'ai opté pour la LICRA et donc pour la question du racisme et de l'antisémitisme, en partie pour des raisons circonstancielles, parce qu'un proche m'y a entraîné, il s'était engagé déjà à m'y entraîner, mais je pense qu'il y avait aussi très profondément en moi la nécessité de le faire parce que ma famille a payé un très très lourd tribut à la Shoah. Et ce qu'on m'a appris, ce que mes parents m'ont appris, c'est que quand on est descendant de personnes qui ont souffert, on développe pas la haine, mais on a une responsabilité de réfléchir à ce qui s'est passé et de faire ce que chacun peut pour éviter que ça ne recommence. Donc je pense que ça a influencé mon choix, même si j'en ai eu plus ou moins conscience quand je l'ai fait.
Donc ce matin, vous êtes intervenu au lycée Pablo Picasso. Quel était le but de cette intervention ?
Alors, parmi les actions que nous pouvons conduire pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, il nous semble qu'une des plus fondamentales, c'est de dialoguer avec le maximum de gens pour essayer de sensibiliser tout le monde à ce que produisent le racisme et l'antisémitisme sur les individus qui les subissent, mais aussi sur la société, et puis sur ceux qui sont porteurs de préjugés. Et parmi ceux avec qui nous tenons à parler, ce sont les jeunes, car les jeunes sont bientôt des citoyens à part entière, et nous aimerions les sensibiliser avant que ne s'installent en eux des convictions haineuses et des préjugés.
Quel accueil recevez-vous en général dans les classes ? Dans les classes de collège, de lycée, quand vous venez ?
D'une manière générale, un très bon accueil, déjà parce que si nous venons dans une classe, c'est qu'auparavant nous avons rencontré les enseignants pour qu'ils nous confient leur classe en leur expliquant ce qu'on voulait faire avec leurs élèves, car les élèves sont protégés, hein, on peut pas venir leur parler comme on en a envie. Et par ailleurs, les élèves, d'une manière générale, nous accueillent vraiment très bien. Chacun selon sa manière, il y a des élèves plus calmes, des élèves plus agités, mais indépendamment de nous. Ce qui est important pour nous et ce qui est peut-être le plus difficile, c'est que ces élèves acceptent de nous parler sincèrement. Comme en général, ils nous accueillent plutôt gentiment, ils doivent nous trouver pas trop antipathiques, donc ils peuvent être tentés de nous parler pour nous faire plaisir et de nous dire ce qu'ils croient que nous attendions. Or, nous aimons bien parler avec ceux qui pensent comme nous, mais ça nous intéresse beaucoup aussi d'argumenter si on nous oppose des idées contraires. Donc c'est ça peut-être qui est difficile, c'est qu'ils acceptent de dire sincèrement des choses dont ils peuvent savoir que ça peut nous contrarier ou avec des idées avec lesquelles nous ne serions pas d'accord. Mais ça, c'est les fondamentaux de notre démocratie, de savoir discuter. Parce que quand on ne se bat plus avec les mots, on se bat... voilà, c'est la guerre.
Avec l'ambiance politique actuelle en France, avec la montée de l'extrême droite, est-ce que cela change quelque chose à votre intervention ? Est-ce que cela vous aide à... Est-ce que cela vous pousse à aller plus loin dans votre intervention ?
Eh bien, à notre avis, ça les rend d'autant plus importantes que à chaque période où il y a des crises, où les gens, pour des raisons tout à fait légitimes, ont du souci, des chagrins, des peurs, nous savons qu'à ce moment-là, des gens profitent de ces peurs, de ces chagrins, de ces inquiétudes, pour essayer de les pousser vers des sentiments de repli ou de rejet des autres. Et donc la situation, pour nous, justifie d'autant plus de dialoguer avec ses élèves.
Bah, merci beaucoup. Donc on était avec un membre de la LICRA et Brian. Donc on vous remercie beaucoup pour votre intervention.
Merci beaucoup à vous.
C'était Brian et Alan, en direct de Radio Picasso.
J'ai toujours rêvé d'être un voyageur du temps, pour écrire l'histoire, pour faire ou défaire l'histoire, pour écrire l'histoire, pour changer le destin de l'humanité, pour effacer ses erreurs, pour annoncer l'avenir ou préserver le passé.
Oui, le pays qu'on quitte n'est pas clair. Oui, le pays qu'on quitte n'est pas sombre. Oui, le pays qu'on quitte est très pauvre. Oui, le pays qu'on quitte est perdu dans le désert. Oui, l'autre pays est joyeux. Oui, l'autre pays est clair, réveillé, lumineux. Oui, mille fois oui. Fin. Plus maintenant.
Au-delà des mers, je voudrais avoir pour ami une tomate cerise, pour la partager. Au-delà des mers, je voudrais avoir pour ami un dauphin ou une souris pour voyager ensemble. Au-delà des mers, je voudrais avoir pour ami une fée plutôt qu'une sorcière pour partager ma vie. Au-delà des mers, je voudrais avoir pour ami un homme tout simplement. Un homme tout simplement au-delà des mers.
Je me souviendrai de ce poète venu dans ma classe. Il racontait des histoires avec passion. Il permettait à chacun de jouer avec les mots pour traduire nos émotions, pour transformer la page blanche en réceptacle de mots pour guérir nos maux et nous guérir de tous les maux du monde. Michel Lautru, il s'appelait.
J'ai toujours rêvé d'être voyageur du passé pour traverser ces ténèbres, pour modifier l'histoire. Créer un long bouchon sous le pont de l'Alma avant le passage de Lady Diana. J'ai toujours rêvé d'être voyageur du passé pour éviter la rencontre des parents d'Hitler. J'ai toujours rêvé d'être voyageur du passé pour éviter les attentats de Paris. Maigre utopie.
L'homme blanc naît le matin. L'homme jaune naît en début d'après-midi. Le marron dans la soirée et le noir la nuit. Être blanc ou noir, être jour ou nuit, lumière du soleil ou bien de la lune, toutes belles sont les couleurs. Aucune ne doit s'éteindre, car le monde n'est ni noir ni blanc. C'est un dégradé de couleurs offert à notre terre.
Il me dessine des oranges, pourquoi pas des mandarines? Il me dessine des hommes, pourquoi pas des femmes? Il me dessine le soleil, pourquoi pas la lune? Il me dessine la mort, pourquoi pas la vie? Il me dessine à l'endroit, pourquoi pas à l'envers? Plus d'encre, les dessins sont finis. Pourquoi tant de noirceur dans votre âme? Comment cela peut-il être possible à l'époque de la planète bleue? Pour une peau plus mate, circulée par un sang rouge vaincu par mon désespoir, révoltée par le rejet, rongée par l'hypocrisie, protestée? Non, vous vous êtes trompé de colère. À quoi bon s'en tenir à un monde monocolore? Sachez qu'il existe une lune blanche pour épouser une lune noire.
Pour nous rendre compte de la réalité des camps, nous sommes partis le 25 avril 2016 de Givors, depuis le lycée Pablo Picasso en direction de Strasbourg à 8h15, et nous sommes arrivés à 14h30 au Parlement européen pour le visiter. Le lendemain, nous partons pour le Struthof à 9h, arrivés à 10h par temps de neige.
Nous voici au CERD de Kartoffelkeller, qui est un musée qui a été annexé au camp de Struthof. Les bâtiments sont un peu sombres et grisés. Il y a quelques photos en noir et blanc des déportés, ainsi que de la documentation sur les différents camps auxquels Struthof a été annexé. Sur le fond, on peut y voir des tableaux de trains avec des rails qui ont l'air sanglantes, et apparemment ce sont des tableaux assez violents car les trains sont sombres, ils ont l'air vraiment métalliques, et c'est un endroit qui est un petit peu éclairé mais qui reste quand même, il laisse une part d'ombre sur un côté. Nous voici au-dessus de la salle des 14 camps. Nous sommes dans une salle où il y a des photos de différents outils ou objets qui ont été utilisés par les déportés, ou bien même qui ont été créés par les déportés. Il y a par exemple un avion fabriqué clandestinement avec une manche de pioche par Robert Krieps, déporté au Kehl Netzweiler. Tout autour de moi, il y a d'autres photos, d'outils qui ont apparemment été usagés par le temps ou tout simplement par l'usure. La salle est un peu plus claire que celle des 14 camps. Nous sommes en ce moment dans la cave aux patates qui a été creusée par les déportés. C'est un bâtiment assez sombre. Le plafond est assez bas, on s'y sent un peu à l'étroit et oppressé. On peut y apercevoir des couloirs sur les côtés. C'est un travail qui a été fait à la main. Enfin, pas avec des outils vraiment adaptés et par des personnes qui n'étaient pas bien équipées. Il n'y a pas beaucoup de lumière, ce qui donne un aspect assez sombre et glauque à la pièce. Et on peut y voir des grands couloirs qui se séparent sur d'autres grandes pièces avec quelques brouettes. Nous voilà en train de marcher en direction de la chambre à gaz. Nous sommes passés à côté du portail du camp de concentration de Struthof, qui est assez imposant et noir, grand, grillagé. Sur ma gauche, il y a deux couches de barbelés. Il y a un plus petit et un plus haut, pour apparemment que personne ne puisse s'échapper. À droite de moi, il y a un monument pour les martyrs de la déportation. Il est vraiment haut et blanc. À l'intérieur, on peut voir une silhouette qui a été creusée. Nous approchons d'un cimetière et il y a vraiment bon nombre de tombes qui ont exactement la même taille. Fait de la même manière, ce qui représente pas mal de morts en soi. À gauche, il y a deux rangs de barbelés qui sont séparés, et sur un angle, il y a une tour de garde qui apparemment a bien servi.
Durant notre séjour, nous avons rencontré un couple de visiteurs, monsieur et madame Roche du Mans. Ceux-ci nous ont expliqué la raison principale de leur venue, qui est le devoir de mémoire. Nous leur avons demandé tout d'abord leurs sentiments quant à l'existence de lieux qui témoignent du passé, comme le Struthof.
C'est qu'on a ce suffisent, il faut les visiter, il faut aller se déplacer, et justement c'est suffisant. Et déjà faire le geste pour y aller, je trouve que déjà c'est bien. Et des endroits comme ça, ils devraient se faire justement dans le recueillement et le silence.
Alors il faut laisser effectivement... Ces espaces dans l'état où ils sont aujourd'hui, et laisser le temps faire son chemin. Il ne faut pas l'oublier, mais il ne faut pas absolument pas s'appuyer dessus. Il faut simplement que ça serve de leçon à l'humanité.
C'est un lieu qui est effectivement très chargé en émotions. Moi, je sais que ça m'a énormément touchée, rien que le fait de passer cette fameuse porte de barbelés. De voir toutes ces photographies, ces commentaires de photographes, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Hein. Simplement, rien que de voir, c'est chargé en émotions. Ça donne des frissons.
Je crois que déjà tout a été dit. Effectivement, c'est chargé d'histoire. On pourrait sentir la présence encore de tous ces gens qui ont souffert, qui ont vécu ici. Et effectivement, c'est un lieu où effectivement il faut écouter et regarder simplement.
Nous voici face à la potence qui a servi à pendre dizaines de déportés. En public, c'était placé en hauteur pour que tout le monde puisse bien les voir. Il y a encore la corde qui est présente, avec un petit peu de neige autour. Tout le décor était enneigé et boisé, ce qui fait que le paysage était plutôt agréable à voir. C'était d'ailleurs une station de ski plutôt prisée, avant l'arrivée des nazis, qui en ont fait un théâtre d'horreur. Nous sommes passés par le ravin de la mort, un endroit où étaient exécutés des prisonniers, puis leur corps a été jeté dans le ravin.
Nous avons pu ensuite voir la chambre crématoire dans laquelle on brûlait des corps ou des personnes vivantes pour réchauffer l'eau des douches. Ensuite, nous avons vu la chambre à gaz dans laquelle il y avait un hublot pour regarder les personnes mourir, pour en faire des rapports scientifiques. Ce qui était choquant aussi, c'est le fait que des médecins inoculaient différents virus mortels à certains prisonniers pour noter, pour tester, pour comprendre.
Vous venez d'écouter un programme réalisé par Radio Picasso autour du projet Connaître et voir pour ne pas oublier. Merci à tous les élèves de INMIC, INSEN, TSEN et TMC. Merci aussi à Nicolas Urbaniak de Radio Onden pour son aide et au dispositif Eureka qui a permis son financement. Merci enfin à tous les enseignants qui nous ont accompagnés dans ce projet.